5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui ne vous fait pas de grands discours, mais les décrypte. Dans quelques minutes, Fabrice Dalméda va vous expliquer la portée historique des déclarations de politique générale, alors que le Premier ministre Édouard Philippe s'exprime cet après-midi face aux députés. Et puis à 6h20, je reçois Marie Robert, professeure de philosophie, qui va donner quelques conseils et astuces à tous les terminales qui préparent en ce moment fébrilement leur épreuve du bac.
Merci d'écouter Europe 1 en ce mercredi 12 juin. Excellent réveil, il est 6h. 5h-7h, Julien Pierce.
Le journal de 6h vous est présenté par Céline Kahneman. Bonjour Céline.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une.
Les deux surveillants pris en otage hier à la prison de Condé-sur-Sarthe ont fini par être libérés. Le détenu 35 ans a déjà été incarcéré dans une vingtaine de prisons différentes. Édouard Philippe, vous l'avez dit, va prononcer aujourd'hui à l'Assemblée un discours de politique générale déroulé de la mise en musique de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron. 4-0 pour les Bleus hier soir face à Andorre en match de qualification pour l'Euro 2020. Ce soir, place aux femmes qui affronte la Norvège à Nice, à guichet fermé pour le Mondial. Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde, soirée spéciale dès 20h. Un détenu habitué des prises d'otages a retenu pendant plusieurs heures à la prison de Condé-sur-Sarthe deux surveillants hier. Finalement, Marguerite Lefebvre, il a fini par les libérer l'un après l'autre.
Oui, une fin de prise d'otage en deux temps. Vers 23h30 hier soir, le détenu libère un premier surveillant. Puis une heure plus tard, vers minuit et demi, les négociations du raid portent leurs fruits. Le détenu finit par se rendre, libérant ainsi la seconde gardienne de prison. Comme son collègue, elle est saine et sauve. 5 heures de menace donc au total pour celui que le personnel présente comme un champion de la prise d'otage carcérale. Un détenu de 35 ans, déjà associé à 5 prises d'otages dans des prisons différentes à Nancy, à Clairvaux, à La Santé, à Paris, à Poissy, puis donc à Condé-sur-Sarthe hier soir, avec visiblement à chaque fois la même revendication, celle de changer de prison pour se rapprocher de sa famille. Francis Dorfer, détenu particulièrement signalé selon la classification du ministère de la Justice, est incarcéré depuis ses 16 ans pour viol et assassinat notamment. Il présente de lourds troubles psychiatriques. Cette nuit après sa reddition, il a été placé en garde à vue.
Merci Marguerite Lefebvre. Le docteur Péchier dormira-t-il en prison ? Ce soir, la cour d'appel de Besançon va examiner aujourd'hui le maintien en liberté de ce médecin, mis en examen pour 24 cas d'empoisonnement, dont 9 mortels. Le docteur Péchier séjourne actuellement chez ses parents à Poitiers, mais le parquet de Besançon a fait appel et préférait que l'anesthésiste soit placé en détention provisoire le temps de l'instruction. 3 jours après le drame de Lorient où 2 garçons ont été fauchés par un chauffard, toujours aucune trace du couple qui se trouvait dans la voiture. Un avis de recherche nationale a été diffusé par la police. Le pronostic vital du second enfant âgé de 7 ans est toujours engagé. L'autre de 10 ans, je vous le rappelle, est décédé sur le coup. Et puis une collision entre 2 bus scolaires a fait 1 mort et 9 blessés hier à Objat en Corrèze. 9 enfants ont été blessés, la plupart très choqués. La conductrice du bus qui circulait seule a succombé à ses blessures.
Le Premier ministre Édouard Philippe va faire sa 2e déclaration de politique générale aujourd'hui.
Oui, l'occasion de préciser les gros chantiers qui attendent le gouvernement jusqu'au municipal. Autre enjeu, bien sûr, le résultat du vote des députés après le discours. Édouard Philippe devrait obtenir sans difficulté la confiance de la majorité. À droite, en pleine crise, on joue l'unité. Adrien Beck.
Quand le parti se délite, le groupe parlementaire Les Républicains se veut soudé. Oublier l'abstention attentiste du début du quinquennat, la droite devrait cette fois voter massivement contre le gouvernement. Plus question de faire le moindre cadeau à l'exécutif, le patron des députés LR Christian Jacob le rappelle, son parti est résolument dans l'opposition.
Rien aujourd'hui ne peut nous amener à ne pas nous opposer, tout simplement parce que nous sommes en face d'un gouvernement qui est d'un sectarisme comme on en a, je crois, jamais vu ou rarement vu. Nous entendons incarner une opposition républicaine.
Une droite qui s'oppose et serre les rangs, donc, même si certains, comme le député pro-Pécresse Éric Diard, se veulent plus ouvert.
Je vais vous dire, voter contre, je ne connais pas du tout la teneur du discours du Premier ministre. Ça serait un peu bête de dire « je suis contre », je ne sais pas ce qu'il va dire. On sait à quoi s'attendre, mais on peut être surpris.
Une ouverture et des abstentions qui ne devraient concerner qu'une poignée de députés, assure-t-on au groupe. Moins optimiste, un dirigeant de LR n'exclut pas qu'il y en ait au moins 15.
Adrien Beck, le Sénat a adopté le projet de loi de santé porté par Agnès Buzyn après y avoir injecté plusieurs nouvelles mesures pour lutter contre les déserts médicaux. Le Sénat qui est aussi revenu sur l'allongement allongement de 2 semaines des délais d'interruption de volontaires de grossesse qui avait été pourtant voté vendredi via un amendement du Parti Socialiste. L'Europe doit dialoguer avec la Russie, laquelle doit de son côté faire des efforts. Déclaration d'Emmanuel Macron dans une interview hier soir à la chaîne publique suisse RTS. Le président français a souhaité réenclencher une dynamique avec le président russe Vladimir Poutine, mais il continue d'exclure à ce stade sa présence au sommet du G7 en août à Biarritz, faute d'avancées tangibles dans la crise ukrainienne.
Certaines entreprises prennent beaucoup trop de temps pour payer leurs factures.
Oui, des retards qui mettent régulièrement des sociétés en danger. Le médiateur des entreprises a analysé les factures envoyées à 9000 d'entre elles. Le tout dernier baromètre publié aujourd'hui est loin d'être rassurant. François Geffrier.
Une facture sur 7 est tout simplement bloquée quelque part. Le chiffre est pire que l'année dernière. Sur près de 3 millions de factures analysées par la société SideTrade, 15% étaient bloquées, contre 13% il y a un an. Et le temps qu'il faut pour résoudre un blocage s'allonge, 48 jours en moyenne, 4 de plus par rapport à la dernière étude. C'est parfois beaucoup plus long, comme le vit au quotidien Laurent Brouat, patron d'une petite entreprise de formation, l'école du recrutement.
Là, je suis sur des factures, j'en ai une dizaine, qui datent de 1 an. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas payé de facture depuis 1 an. Le délai normal, on est sur des paiements entre 60 et 90 jours. On a parfois effectivement des créances qui représentent 100 à 150 000 euros. Nous, on fait un chiffre d'affaires environ de 800 000 euros. Donc c'est un sacré montant quand même au final. Pour financer ça, j'ai eu besoin d'aller emprunter de l'argent.
Aucun secteur de l'économie n'échappe à ces retards qui ont souvent pour origine la complexité des démarches. Quand on veut se faire payer par un grand groupe, les petites sociétés ont du mal à anticiper et à s'en sortir quand un problème survient. Les retards de paiement sont la cause d'une faillite d'entreprise sur 4.
François Geffrier, si vous partez à l'étranger cet été, avez-vous pensé à votre passeport ou vérifier s'il est encore valide? Pour les retardataires, il faut parfois attendre des semaines avant de récupérer ses papiers. Dans un village de Bretagne, le Ferré, près de Fougères, on obtient un rendez-vous en moins de 15 jours. Résultat, certains sont prêts à parcourir des centaines de kilomètres pour obtenir leur passeport ou carte d'identité. Leur reportage de François Coulomb pour Europe 1.
À la mairie du Ferré, le téléphone n'arrête pas de sonner.
Là, depuis 2-3 mois, on passe nos journées à faire ça. Une très grosse pression au téléphone quand on les a pour un rendez-vous.
Le bouche à oreille fonctionne bien.
Au Ferré, 700 habitants, le mot d'ordre, c'est service public express avec délivrance de passeport et carte d'identité en 3 semaines. On vient parfois de très loin pour profiter de l'aubaine.
J'habite à Paris, j'avais 6 mois pour obtenir un passeport. Et je pars jeudi matin. Donc nous sommes là. Merci beaucoup, bon après-midi.
On reçoit les gens dans la semaine, vous vous rendez compte? Sinon je ne pouvais pas partir, c'est miraculeux.
Ici, monsieur le maire n'hésite pas à délivrer lui-même des passeports le dimanche, Louis Potret.
On nous dit tellement que tout ce qui est petit, il faut le supprimer. Là, l'habitant parisien de Bordeaux, de Nantes, il va venir trouver sa bouée de sauvetage sur une commune rurale de 700 habitants. On est aussi indispensable que les métropoles et les grandes capitales. Je trouve ça magnifique.
50 documents délivrés chaque semaine, l'opération n'est absolument pas rentable. Une secrétaire à temps plein pour une indemnisation annuelle autour de 9000 euros. La démarche se veut militante. Le Ferré, François Coulon, Europe 1.
Et puis Catherine Deneuve présidera le 45e Festival du cinéma américain de Deauville, festival prévu du 6 au 15 septembre.
C'était le journal de Céline Kallmann. Merci à vous, Céline.
Europe 1. Il est 6h07, Julien Pierce.
Dans un instant, notre historien Fabrice Dalméda revient sur la portée parfois historique des déclarations de politique générale, alors que le Premier ministre Édouard Philippe s'exprime cet après-midi face aux députés. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe.
Il est 6h09, Julien Pierce.
La météo, Céline Dacosta, où est passé notre mois de juin?
Ah ben alors là, allez savoir. En tout cas, celui dont vous rêvez avec du soleil et des températures douces, il va revenir. Mais en attendant, c'est toujours perturbé avec des nuages sur une grande partie du pays dès ce matin. On a tout d'abord la perturbation de cette nuit pluvieuse qui est en train de s'évacuer par le nord-est avec encore quelques gouttes le long des frontières du nord. Et puis, un ciel bien perturbé sur toute la moitié ouest encore avec des orages qui seront toujours possibles dans la matinée. Puis du vent le long des côtes atlantiques. Pour les autres, ça sera quand même plus calme, avec déjà des éclaircies. Des Pyrénées aux Alpes, là, ce sera même grand soleil. Et puis cet après-midi, la bonne nouvelle, c'est que les éclaircies vont gagner toute la moitié est. Ça va rester perturbé uniquement sur un gros quart nord-ouest, avec là encore un ciel mitigé. Quelques éclaircies, c'est vrai, mais surtout des averses, ponctuellement des orages et peut-être même localement quelques chutes de grêle.
Est-ce qu'on a une idée du temps qu'il va faire pour le reste de la semaine?
Le reste de la semaine, c'est un petit peu dans la même veine. Ça va se calmer un petit peu demain, jeudi, surtout sur l'est du pays. Ça restera toujours un petit peu perturbé sur le nord-ouest. Et puis après, c'est toujours ce régime d'averses, de nuages, d'éclaircies qui va être en place au moins jusqu'à dimanche, voire lundi.
Relou
Ouais, un petit peu ça, c'est un petit peu l'idée.
Merci Céline Dacosta.
5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.
J'accueille maintenant un garçon qui est tout chose depuis cette nuit, depuis que Jérôme Lacroix a découvert le physique avantageux d'Alex Morgan, l'attaquante star de l'équipe de foot des États-Unis. Je vous épargne les mots-clés utilisés par Jérôme dans son moteur de recherche, Alex Morgan ci, Alex Morgan ça. Quoi qu'il en soit, tout le système informatique d'Europe 1 est depuis vérolé, des virus en tout genre. Seule bonne nouvelle, Jérôme Lacroix a quand même trouvé le temps de nous préparer un journal de la Coupe du Monde féminine.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Et Jérôme Lacroix, quels sont les titres ?
Swipe up, swipe up. Les Bleus veulent aller plus haut ce soir face à la Norvège, vous allez comprendre. Les Norvégiennes sans leur joueuse star, l'une des meilleures du monde. Et puis, les Américaines montrent les muscles. Ô combien, victoire record hier soir, 13-0.
La Coupe du Monde féminine. Europe 1, radio officielle.
Swipe up, c'est l'expression du jour. Alors ça veut dire quoi ? Ben en fait, c'est balayer vers le haut, ce geste qu'on est beaucoup à effectuer pour activer par exemple l'écran de nos téléphones portables. Et ben c'est de ce geste que vient la célébration des joueuses françaises lorsqu'elles marquent un but, doigt pointé du bas vers le haut. Vu 4 fois vendredi dernier contre la Corée du Sud, match d'ouverture, les coéquipières de la capitaine Amandine Henry espèrent le refaire encore et encore, pourquoi pas ? Dès ce soir, contre les Norvégiennes, deuxième match, les adversaires les plus redoutables du premier tour.
Avec un sponsor, avant la compétition, on avait fait une petite danse qui était sur la base du swipe up. Sur les téléphones, swipe up, c'est monter vers le haut. Et que c'était un peu symbolique parce que quand on faisait ça, on avait envie de dire en gros encore, encore, encore. Et donc on l'a gardé. Mais je pense qu'on peut encore la perfectionner.
Par contre, moi je vais leur interdire parce que je suis obligée. Hein. C'est mon rôle. Hein.
Elle a un petit rappel à l'ordre amical de la sélectionneuse de Corinne Diacre, France-Norvège, ce soir à Nice, dans un stade une nouvelle fois aux tribunes pleines, plus de 35 000 personnes. Et elle devrait être bien présente, les deux joueuses clés, Eugénie Le Sommer, l'attaquante, et Wendy Renard, la défenseuse, légèrement blessée ces derniers jours.
Wendy Renard, redoutable sur corner. Et justement, à propos d'elle, les Norvégiennes la redoutent particulièrement.
Double buteuse contre les Sud-Coréennes, 2 buts de la tête. Bah oui, 1m87, c'est la joueuse la plus grande du tournoi, figurez-vous, alors pour s'entraîner à la contrée. Eh bien, les Norvégiennes ont fait bosser hier sur le terrain leur attaché de presse. Pourquoi ? Parce qu'il mesure 1m96. Eh bien oui, tous les moyens sont bons.
Ces Norvégiennes qui vivent une drôle de situation, elles disputent le mondial sans leur meilleure joueuse.
La meilleure joueuse du monde est norvégienne, tout juste sacrée ballon d'or féminin, la première de l'histoire. Ada Hegerberg n'est pas blessée. Elle boycotte la sélection depuis 1 an et demi. Fâchée avec sa fédération, elle réclame depuis de longues années l'égalité footballeuse-footballeur. La meilleure joueuse absente, oui, c'est un point en plus pour les Bleus. La sélectionneuse Corinne Diacre alerte toutefois.
L'équipe de France va jouer contre la Norvège, non pas contre Ada Hegerberg. Une équipe qui s'est qualifiée sans elle. Ada Hegerberg a fait son choix, mais c'est bien contre la Norvège que l'on va jouer.
Et France-Norvège ce soir à Nice, deuxième match du premier tour du mondial. À suivre en intégralité sur Europe 1, soirée spéciale dès 20h.
Le premier carton de ce mondial, Made in USA.
Alex Morgan !
Alex Morgan, oui, la buteuse star des Américaines championnes en titre, a marqué 5 buts hier soir, plus 3 passes décisives pour une victoire finale de Team USA. 13-0 face aux Thaïlandaises, 13-0, score d'une ampleur jamais vue en 8 éditions de Coupe du Monde féminine. On doit accepter le score, ont sobrement réagi les malheureuses Thaïlandaises.
Les pauvres. À suivre aujourd'hui, outre France-Norvège, Allemagne-Espagne.
18h, des Espagnols en pleine expansion où le championnat national attire des centaines de milliers de spectateurs face aux Allemandes, 2 fois titrées, mais qui paient une fracture. Leur meneuse star, Jennifer Marozan, s'est fracturée un orteil. Elle est forfait.
C'était le journal de la Coupe du Monde féminine de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme et à demain. L'histoire est, paraît-il, un perpétuel recommencement. On vérifie tout de suite ça avec Fabrice Dalméda.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Le Premier ministre Édouard Philippe va prononcer cet après-midi une déclaration de politique générale. C'est la deuxième après celle du 4 juillet 2017. Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour.
Quelle est la portée historique de ces discours ?
Ce sont de grands messes parlementaires héritées des lointains votes d'investiture des gouvernements de la 3e et de la 4e République. Dernier chef de gouvernement de la 4e République, rappelez-vous, Charles de Gaulle, en a fait une le 1er juin 1958. En pleine crise politique, il demande les pleins pouvoirs et les obtient. De Gaulle maintient ensuite la déclaration de politique générale sous la 5e République, car avant 2008, le président ne prononce pas de discours devant les assemblées. C'est une arme dans les mains du Premier ministre.
Mais quelle est la force de cette arme ?
Alors légère politiquement, mais lourde médiatiquement, car la déclaration assure une large diffusion au mot d'ordre du Premier ministre. Rappelez-vous, la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas en 1969, l'avènement du peuple de gauche pour Pierre Mauroy en 1981, le dépassement des clivages partisans de Michel Rocard en 1988, la dénonciation ratée du chômage, de l'insécurité et de la corruption qui avait valu d'ailleurs à Pierre Bérégovoy quelques ennuis plus tard en 1992. Sans oublier toujours les catalogues de mesures scrutés ensuite par tous les secteurs de la société. Mais cela peut donner une impulsion, remobiliser ses troupes.
Est-ce que cela peut-il influencer les choix du président de la République ?
En fait, quels que soient les résultats de la déclaration et du vote de confiance qui la suit, si le président décide de se débarrasser de son Premier ministre, rien ne l'arrête. Seuls les gouvernements de cohabitation ont échappé à cette logique, comme celui de Jacques Chirac, dont le discours de politique générale le 9 avril 1986 conjuguait l'espérance française avec les privatisations et la lutte contre l'insécurité. Déjà, ou celui d'Édouard Balladur, le 15 avril 1993, qui prônait tout simplement la réconciliation des Français. En fait, c'est une arme à double tranchant, car en fixant un programme, elle donne plus tard les moyens de dresser un bilan.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda et à demain pour un autre décryptage de l'actu sous le prisme de l'histoire.
Europe 1. Il est 6h17, Julien Pierce.
Debout les copains se poursuit avec philosophie. J-5 avant l'épreuve tant redoutée du bac philo. Lycéens, parents, arrêtez de trembler. Je reçois dans un instant Marie Robert, une prof de philosophie et auteur de livres qui a le talent de rendre simple et utile au quotidien les pensées de Montaigne, Kant ou encore Descartes. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Julien Pierce.
Fin de la prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe peu après minuit et demi. Deux surveillants, un homme et une femme, ont été retenus plusieurs heures par un détenu qui s'était fabriqué une arme artisanale. L'homme de 35 ans en était à sa 6e prise d'otage. Édouard Philippe prononce aujourd'hui la 2e déclaration de politique générale du quinquennat Macron. Il doit préciser les contours de l'acte 2 esquissé fin avril par le chef de l'État au sortir de la crise des Gilets jaunes. L'anesthésiste de Besançon ira-t-il en prison ? La cour d'appel va examiner aujourd'hui le maintien en liberté du docteur Péchier. Il est mis en examen pour 24 cas d'empoisonnement, dont 9 mortels. Football, messieurs, hier soir, les Bleus ont largement battu Andorre, 4-0, lors des qualifications pour l'Euro 2020. Football, mesdames, ce soir, les femmes de Corinne Diacre affrontent la Norvège à Nice. Le stade affiche complet.
5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1.
Voici pour les titres de ce mercredi 12 juin. Mais l'actualité, c'est aussi la dernière ligne droite avant les épreuves du bac qui débutent lundi prochain, le 17 juin, avec l'épreuve de philosophie tant redoutée. Alors ce matin, nous avons choisi de donner la parole à une prof de philo qui est aussi auteure d'ouvrages à destination du grand public. Bonjour Marie Robert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous mettez un point d'honneur à rendre la philosophie sexy, mais ce n'est peut-être pas l'avis des élèves de terminale en ce moment, non ?
Mais si, sans doute, ça va l'être. En tout cas, peut-être lundi matin, ils vont avoir cet éclair. Mais en fait, c'est formidable. Je passe un moment délicieux.
Alors là, on est mercredi matin. Est-ce qu'il est encore temps de s'y mettre pour réviser, pour potasser Descartes, par exemple ?
Bien sûr. Alors, sans aucune démagogie ni faux-semblant, il est toujours temps de s'y mettre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ces quelques jours, ça peut être des jours où on mobilise toute son efficacité. Alors bien entendu, c'est certainement pas là où on va se plonger dans Critique de la raison pure et lire les 800 pages d'une traite, ça c'est certain. Par contre, il est toujours temps de prendre ses notions, selon sa filière, qu'on soit en L, en ES ou en S, de prendre la liste des notions, de réunir 3 auteurs à chaque fois, être capable au moins d'avoir, je dirais, presque cette boîte à outils, en fait. Cette boîte à outils de secours pour lundi matin. matin, trois auteurs et trois exemples justement plus personnels de la vie quotidienne, de la littérature, du cinéma. Donc là, dès le réveil, peut-être que certains élèves sont d'ailleurs déjà debout, prêts à faire
sûrement.
Leur fiche Bristol. Sûrement, on y croit totalement.
Alors s'ils sont là les élèves, est-ce qu'il y a des moyens mnémotechniques que vous pouvez partager avec nos auditeurs ?
Alors, en philo, il n'y a pas tant de moyens mnémotechniques à part cette idée de fiche. Par contre, il y a un conseil que je veux absolument partager, non seulement avec les élèves, mais surtout avec les parents. Arrêtons de dire thèse, antithèse, synthèse. Ça n'existe pas. Un plan de philo n'a jamais été thèse, antithèse, synthèse. Dire oui, non, peut-être n'a aucun sens. Donc, une disserte de philo, c'est trois chemins possibles, en fait. C'est trois possibilités de réponse. Ce que va regarder un correcteur, c'est vraiment le cheminement de l'élève. Non, il ne note pas en fonction de ses idées. Non, il ne note pas à la tête du client. Oui, les profs lisent vraiment les copies. je fais des grandes révélations ce matin dans cette matinale.
On vous remercie.
Du dur. Non, vraiment, l'idée, c'est de voir si l'élève a construit, en fait, un cheminement. S'il a été capable d'être cohérent, d'être logique, d'amener, en fait, le correcteur d'un point A à un point B. C'est ça le plus important. Donc, pas antithèse, antithèse, synthèse, mais trois chemins de réflexion. Et à chaque fois, effectivement, appuyé par quelques auteurs et quelques références. Mais les auteurs, les élèves doivent s'être appropriés, en fait, la réflexion.
Je vais vous partager une réflexion très personnelle, une expérience très personnelle. Quand moi, j'ai passé mon bac de philo, j'ai pu avoir accès à ma copie après coup et il était marqué pas mal, mais il n'y a pas de citation. Est-ce que les citations, c'est indispensable ?
Alors effectivement, les citations ne sont pas indispensables, mais montrent qu'on maîtrise la pensée de l'auteur. Donc c'est une manière de dire on y a accès. Donc effectivement, apprendre quelques citations, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai ajouté quelques-unes dans mon livre, apprendre par cœur quelques citations, ça peut être intéressant. Mais alors attention, il faut que les citations soient appropriées et qu'on ait l'impression qu'elles viennent juste ponctuer un raisonnement et qu'elles soient pas justes, qu'elles arrivent pas juste comme un cheveu sur la soupe.
Alors la philo, ce n'est pas que le bac, hein, pas que cette épreuve lundi prochain, ça sert aussi dans la vie de tous les jours. Vous dites que la philo aide à travailler sa souplesse, que c'est un peu le yoga de l'esprit. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
C'est-à-dire qu'effectivement, alors bien sûr, j'espère que ça va au-delà du bac. D'ailleurs, c'est aussi dans cette perspective que j'avais écrit mon livre, c'est de dire à mes élèves, mais ça ne s'arrête pas le jour où on rend une dissertation. Au contraire, c'est à ce moment-là où ça commence. Parce que la philo, c'est tout ce qui va nous permettre de trouver du confort dans l'inconfort. On va tous traverser des situations de vie plus ou moins difficiles, des crises, des moments d'émotion, des moments de complexité. La philo est ce qui nous permet vraiment de faire un pas de côté, de prendre ce petit moment de recul et de se dire « Ok, qu'est-ce qu'il est en train de se passer ?» Et c'est pour ça que je dis que ça forge aussi notre souplesse, parce que tout d'un coup, ça nous force à voir la situation autrement. C'est pas une méthode miracle, ça nous permet pas de tout régler, c'est pas une promesse. Simplement, ça nous permet voilà, de retrouver un peu de respiration.
Alors justement, dans votre dernier livre qui s'intitule « Descartes pour les jours de doute », vous faites le lien entre une mère de famille débordée par ses enfants et les textes de Rousseau, entre un cadre stressé et Montaigne. Vous écrivez que Voltaire peut nous aider à être plus tolérant, Foucault à être plus libre. Tous les philosophes restent contemporains ou certains sont dépassés ?
En fait, ce que je trouve absolument fascinant dans la philo, c'est de se rendre compte à quel point toutes les problématiques, toutes les notions traversent le temps et traversent les siècles. Alors évidemment, le désir, c'est compliqué, la liberté, c'est compliqué, et ça fait plus de 2000 ans que ça l'est. Donc au contraire, je pense que tous les philosophes peuvent, alors après, est-ce qu'on adhère ? Et évidemment, il y a certains sujets, et c'est ce que d'ailleurs j'essaye de travailler dans mon livre, il faut les réadapter, il faut avoir une capacité de prendre la notion et de la mettre dans un contexte totalement différent et dans un contexte contemporain. Mais je crois que les philosophes ne parlent pas d'autre chose que de nous. En fait, la philosophie traite vraiment de nous, ici et maintenant. Toutes les notions de philo sont des notions parfaitement actuelles. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est de les mettre en avant.
Par exemple, Rousseau à Disneyland, là c'est le premier chapitre de votre livre. Comment une sortie dominicale, on imagine, avec vos enfants à Disneyland peut vous amener à penser Rousseau, Jean-Jacques Rousseau ?
J'avais très envie, en fait, de parler un peu de cette parentalité qui, aujourd'hui, est complètement oppressée. Il y a tellement d'injonctions. Il faut faire ci, il faut faire plaisir, il faut occuper les enfants. Ils ont des agendas remplis encore bien plus que nous. Et donc, j'avais envie d'imaginer, effectivement, ces parents qui, en essayant de faire plaisir, emmènent leurs enfants dans un parc d'attractions. Et en fait, la journée devient absolument absolument horrible, puisque de toute façon, et on finit voilà, par râler, par dire « mais non, fais pas ça, touche pas ça, mais non, je ne t'achèterai pas ce 12e serre-tête Mickey ». Et finalement, ce que nous dit Rousseau, et c'est là où, dans ce moment, on est complètement éreinté, où on est épuisé, Rousseau a quelque chose à nous dire, c'est cette idée de, finalement, les enfants, faisons-leur un peu confiance. Ne soyons pas toujours en train de les reprendre, de nous imposer, de nous mettre une pression, non seulement à nous, mais aussi aux enfants. Laissons un peu de marge. Alors, ça ne veut pas dire leur laisser faire n'importe quoi. Bien sûr que non.
Merci beaucoup, Marie-Robert, pour tous ces conseils. Professeur de philosophie, votre dernier livre, je rappelle, Descartes pour les jours de doute et autres philosophes inspirants. C'est aux éditions Flammarion et c'est passionnant. Merci à vous
Merci
et à
vous.
Bientôt.
Très belle journée.
Europe 1. Il est 6h27, Julien Pierce.
Dans un instant, le journal complet de David Doucan et la météo de Céline Dacosta. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 6h28, Julien Pierce.
Et avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan, on fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Ciel bien gris ce matin.
Oui, et ça sur les trois quarts du pays, avec des averses qui sont encore présentes, de la Gironde au Poitou-Charentes jusqu'en Basse-Normandie, en Bretagne. On peut avoir aussi quelques coups de tonnerre au milieu de tout ça. Du vent sur les côtes atlantiques, et puis il reste encore quelques gouttes. Ça, c'est la perturbation d'hier qui s'évacue ce matin sur le nord-est, notamment près des frontières du nord. Alors, c'est plus calme pour les autres, avec déjà quelques éclaircies une fois que le soleil se sera levé dans très peu de temps maintenant. Grand soleil des Pyrénées aux Alpes et en Corse. Les températures, elles sont fraîches ce matin. Une petite moyenne de 6 à 12 degrés. Un petit peu plus dans le sud-est, hein, près de la Méditerranée. 17 à Nice et déjà 21 degrés à Bastia en ce moment.
Il y aura du mieux à l'est. Hein,
mais oui, cet après-midi, retour de larges éclaircies, d'un temps sec surtout. Sur la moitié sud, ça sera pas mal aussi avec un petit peu plus de nuages. Ça va rester perturbé sur le nord-ouest avec une moyenne semblable à celle hier pour les températures de 14 à 20 degrés.
Merci Céline Dacosta.
5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.
Vous écoutez Debout les copains, très bon réveil à tous. Après le journal de David Doucan, on retrouvera nos trois fantastiques, Anne Le Gall, Axel de Tarlet et Mickaël Darmon. Mickaël va nous expliquer que le Premier ministre Édouard Philippe va remanier sa méthode à l'occasion de sa déclaration de politique générale cet après-midi. Trop de démarchages téléphoniques, d'appels intempestifs, les Français ne répondent plus à leur téléphone. Ce sera la chronique d'Axel de Tarlet. Enfin, Anne Le Gall va nous conseiller un documentaire sur nos forêts françaises aussi riches et dense, paraît-il, qu'au Moyen-Âge.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. h 7h, Julien Pierce.
Et le journal de 6h30 vous est présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Trois titres à la une, David.
Des réformes, oui. Mais lesquelles, dans quel ordre, pour quelle société? Discours de politique générale cet après-midi. Édouard Philippe va devoir donner corps au deuxième temps du quinquennat promis par Emmanuel Macron. La prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe est terminée. Les deux surveillants sont sains et saufs. Le détenu s'est rendu et a été placé en garde à vue. Et puis au Royaume-Uni, la course à la succession de Theresa May. Ils sont 10 à vouloir sa place, mais le grand favori s'appelle Boris Johnson. Reportage avec les militants du Parti conservateur dans ce journal.
Europe 1.
Un discours de politique générale, un débat avec les oppositions, puis un vote de confiance. Voilà ce qui va se passer à partir de 15h dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Que va dire le Premier ministre? Quelle réforme? Dans quel ordre? Tous les arbitrages sont-ils rendus? À l'heure où nous vous parlons, voilà pour les questions. Les réponses, c'est avec Aurélie Herbemont.
Édouard Philippe va donner le coup d'envoi opérationnel de l'acte 2, l'occasion de préciser les annonces post-grand débat du chef de l'État et surtout de donner un calendrier, un ordre dans les priorités, car le nombre de chantiers risque de provoquer un embouteillage au Parlement. Assurance chômage, retraite, écologie, services publics, dépendance, sans oublier les baisses d'impôts. C'est au déjeuner qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron procéderont aux derniers arbitrages. Le suspense, c'est: est-ce qu'on commence par une réforme écologiste, sociétale ou sociale? Confie un conseiller du Premier ministre qui ajoute: il y aura forcément de l'écologie assez tôt. Les européennes sont passées par là. L'aile gauche de la majorité, elle, plaide pour que la PMA arrive vite. Le résultat du vote de confiance sera en tout cas observé à la loupe. Les troupes de la majorité seront au rendez-vous, mais pas sûr qu'on assiste aujourd'hui à son élargissement. Un proche d'Édouard Philippe relativise: la poutre travaille par ailleurs chez les élus locaux.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, la poutre travaille encore, référence à la phrase fameuse du Premier ministre qui décrit souvent décevant ainsi la recomposition politique commencée en 2017 et qui, selon lui, est loin d'être terminée. La prison de Condé-sur-Sarthe, cette fois, c'est une prise d'otage. Hier soir, à partir de 19h40, un détenu a séquestré deux gardiens dans sa cellule. Le raid est intervenu, le forcené s'est rendu un peu après minuit. Les deux surveillants ont été libérés, sains et saufs. L'auteur de cette séquestration s'appelle Francis Dorfer et son surnom, c'est le champion de la prise d'otage carcérale. Il en a cinq à son actif. Écoutez Emmanuel Guimarès, délégué Force ouvrière pénitentiaire.
C'est un détenu, comme on dit, DPS, un détenu particulièrement signalé, surveillé, parce que il a ce potentiel dangerosité qu'il a manifesté déjà à plusieurs reprises. Puisqu'il n'en est pas à sa première prise d'otage, il a été incarcéré très tôt, il est suivi pour des troubles psychiatriques aussi. C'est pour ça qu'on avait des consignes de suivi un peu plus rapprochées. Pour autant, on n'avait pas de signe de radicalisation du tout. C'était lui qui était en charge de la distribution du repas. Et donc, à un moment donné, je suppose, quand il s'est retrouvé isolé avec les deux collègues, c'est là qu'il a dû sortir son arme. Trois mois après l'attentat terroriste du 5 mars, on a le droit de se poser des questions. Il y avait des discussions qui avaient été faites en haut lieu avec la garde des Sceaux et le directeur de l'administration pénitentiaire qui nous avait promis des mesures. Aujourd'hui, ces mesures, elles peinent à arriver. Et voilà, trois mois après, on se retrouve dans la même configuration.
Emmanuel Guimarès, délégué Force ouvrière pénitentiaire avec Jean-Gabriel Bourgeois. Pour rappel, le 5 mars dernier, un détenu radicalisé avait blessé deux surveillants dans cette même prison de Condé-sur-Sarthe à l'aide d'un couteau en céramique. Le chauffard et la passagère sont toujours introuvables. Je vous parle des principaux suspects après qu'une voiture a percuté deux enfants à Lorient dimanche. L'un est mort, l'autre est grièvement blessé. La police a lancé un appel à témoins après avoir largement diffusé les photos des deux suspects. Hélène Terzian.
Les enquêteurs ont déjà ratissé tous les lieux logiques, ceux qui avaient un lien connu avec les fuyards, les caches potentielles des endroits qu'ils fréquentaient, chez les proches, chez les amis, mais officiellement rien, aucun indice permettant de signaler leur présence ou d'orienter les recherches. Voilà pourquoi la police a dû se résoudre finalement à diffuser hier un appel à témoins avec le signalement du jeune homme de 20 ans et de la jeune fille de 21 ans. Pour l'instant, cet appel à témoins n'a pas encore porté ses fruits, mais les forces de l'ordre s'appuie dessus car les retours sont très nombreux. Pour la population, le couple aurait pu entre autres partir avec le véhicule, aujourd'hui semble-t-il introuvable, de la jeune fille. Devant ces 72 heures d'échec dans la région de Lorient, les recherches s'étendent désormais au plan national. Le commissaire en charge de l'enquête indique que la police, la gendarmerie mais aussi la police des transports et des douanes sont mobilisées avec une vigilance particulière portée aux aéroports.
Hélène Terzian pour Europe 1.
À suivre dans ce journal. Qui veut la place de Theresa May? Ils sont 10 et le favori s'appelle Boris Johnson. Nous serons à Londres dans un instant. A tout de suite.
Il est 6h35. Il est 6h36, Julien Pierce.
La suite du journal de David Doucan, la course à la succession de Theresa May est officiellement lancée.
Oui, ils sont 10 conservateurs à s'être déclarés candidats en début de semaine. À l'issue d'une série de votes, les députés Tories en choisiront deux. Les finalistes seront départagés par les 160 000 militants du parti. Et le grand favori, c'est Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères et grand artisan du Brexit en 2016. Et des soutiens parmi les militants, il en a, Boris Johnson. Écoutez ce reportage signé Anaïs Cordoba.
Le référendum sur le Brexit, la réélection à la mairie de Londres et maintenant la course vers Downing Street. Quels que soient les défis que Boris Johnson se lance, Maillard fait partie des indéfectibles militants.
Nous aurions dû avoir dès le début quelqu'un qui croyait au Brexit. Theresa May n'y croyait pas, c'était le premier problème. Il est le meilleur candidat pour la remplacer, il est l'homme politique le plus populaire au sein du parti et du pays. Et nous avons besoin de quelqu'un comme ça pour unifier le pays.
Des militants, mais aussi des soutiens de longue date, comme son ancien conseiller municipal Greg Smith, qui promet il fera campagne sans relâche.
Il a été un maire fantastique pour Londres. Avant son élection, son côté clown a beaucoup inquiété. Mais Boris, c'est Boris. Son style lui appartient. Ce qui est important, c'est ce qu'il a accompli. Il a la capacité d'être un grand leader et de remporter des élections.
Même parmi les conservateurs, pour qui le candidat Johnson passe parfois pour un pitre, on lâche ce soutien timoré. Si ce n'est pas le Premier ministre que les Anglais méritent, disent-ils, c'est celui dont nous avons besoin maintenant. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Mais je vous emmène maintenant en Asie. Première victoire pour les protestataires hongkongais. Ils manifestent par milliers, tous vêtus de noir, autour des bâtiments du gouvernement. Ils paralysent la circulation. Et face à cette colère, les autorités ont décidé de reporter
l'examen du projet de loi controversé, je vous le rappelle, ce texte qui vise à autoriser les extraditions depuis l'île de Hong Kong vers la Chine continentale et qui est la cause de cette protestation. Si vous êtes parent d'un tout jeune enfant à Paris, peut-être avez-vous pris l'habitude d'attacher la poussette avec un cadenas, conséquence d'une recrudescence de vols depuis quelques semaines. Et mardi dernier, 17 poussettes ont été dérobées d'un seul coup à la crèche Petit Gaillard dans le 19e arrondissement. Yasmina Katou.
À l'entrée de la crèche, un tout nouveau digicode vient d'être installé. Le précédent n'avait pas résisté aux manipulations des cambrioleurs. Ici, c'est le deuxième vol de poussettes en un an. Cette fois-ci, les malfaiteurs ont dérobé un modèle bien précis de la marque Yoyo. Valeur moyenne 400 euros. Un investissement pour Julia. Sans Lando, la maman enceinte de 8 mois est à bout.
Ça implique en fait de rechanger sa manière de vivre, de s'adapter, de faire autrement. Combien de familles sont impactées par ça en permanence? C'est tellement fréquent que ça en devient pénible. C'est un coût. Les assurances ne remboursent jamais l'intégralité.
La poussette de Julia va probablement atterrir sur un site de revente en ligne à prix cassé. Un trafic d'ampleur. Dabia et Pia les annoncent pour trouver une yo-yo d'occasion. Des recherches surveillées par la police.
Le commissariat du 9e arrondissement m'a téléphoné. Ils avaient repéré que j'étais à la recherche active d'une poussette. Ils voulaient savoir si j'avais rencontré une personne pour acheter ma poussette. Et là, ils m'ont confessé qu'en fait, ils avaient retrouvé ma trace aussi sur des échanges avec certaines personnes qui avaient été attrapées. Comme ça, j'ai appris qu'il y avait une sorte de gang des poussettes volées dans le 19e arrondissement.
Du coup, cette maman compte se rabattre sur du neuf pour ne pas risquer d'acheter sur Internet une poussette volée.
Enquête signée Yasmina Katou pour Europe 1 Football. Les champions du monde se sont rattrapés après la sèche défaite en Turquie samedi dernier. Ils sont allés battre Andorre hier soir 4-0 en qualification pour l'Euro 2020. Quant aux filles qui jouent, vous le savez, la Coupe du Monde en France, elles affrontent ce soir la Norvège. Qu'est-ce qui vous arrive, Julien?
Non, j'ai dit à bout.
Allez, match à 21h, émission spéciale à partir de 20h sur Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde féminine de foot. C'était le journal de David Doucan. Merci David.
On s'intéresse la coupe, dans les studios.
Mais d'ici quelques minutes, voilà. Mais fallait pas spoiler.
Ah pardon, c'est un secret.
Oh là là. Ramenez l'âge. Il part en vacances celui-là. On s'intéresse maintenant au ciel, Céline Dacosta.
Oui, avec
pas
une
terrible,
question.
Hein. Oui, quand où même. Peut-on trouver du soleil aujourd'hui?
Voyons, on commence par les choses positives parce qu'il va y en avoir du soleil. Alors ce matin, sur l'extrême sud des Pyrénées aux Alpes et puis en Corse, il va briller déjà largement. Cet après-midi, il y aura un petit peu plus de neige sur la moitié sud, mais il va continuer à réchauffer une large moitié sud et tout le flanc est, hein, puisque le soleil va revenir. En attendant, on a encore ce matin un ciel bien couvert sur le nord-est avec des pluies possibles long des frontières du nord. C'est le cas aussi sur une moitié ouest de la Normandie à l'Aquitaine avec là des orages. Orages qui concerneront surtout un gros quart nord-ouest cet après-midi en allant jusqu'à la région parisienne. Le tout sous des températures encore fraîches pour la saison sous les normales comme hier. 14 à 20 degrés pour cet après-midi avec 19 degrés à Paris jusqu'à 26 degrés pour la maximale en Corse à Bastia.
Merci beaucoup Céline Dacosta.
Europe 1.
Il est 6h41, Julien Pierre, c'était à moi, pardon.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7, où vous l'avez compris, info et bonne humeur sont de rigueur. Dans un instant, nos trois fantastiques, Anne Le Gall, Mickaël Darmon et Axel de Tarlé, viennent parler politique, économie et médias. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h45, l'essentiel de l'actualité, Julien Pierce.
Discours de politique générale, Édouard Philippe prendra la parole dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à 15h. Ensuite, les députés voteront à nouveau la confiance au Premier ministre. Objectif pour le chef du gouvernement, lancer les réformes de la deuxième partie du quinquennat. La prise d'otage à la prison de Condé-sur-Sarthe est terminée. Les deux surveillants sont sains et saufs. Après intervention du RAID, le détenu s'est rendu et a été placé en garde à vue. C'est une première victoire pour les protestataires hongkongais. Ils étaient des milliers, tous vêtus de noir. Ils manifestaient autour des bâtiments du gouvernement et paralysaient la circulation face à la colère. Et les autorités ont décidé de reporter l'examen du projet de loi controversé. Le texte vise à autoriser les extraditions depuis l'île de Hong Kong vers la Chine occidentale. Et puis le football, les champions du monde se sont rattrapés après la défaite 2-0 face à la Turquie samedi dernier. Ils sont allés battre Andorre hier soir 4-0 en qualification pour l'Euro 2020. Quant aux filles, elles jouent ce soir face à la Norvège à 21h. A priori, la Norvège, l'équipe la plus relevée de leur groupe. Émission spéciale à suivre sur Europe 1 à partir de 20h.
5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1.
6h46, l'heure de retrouver nos trois fantastiques.
Anne Le Gall pour la télé, Axel de Tarlet pour l'économie et Mickaël Darmon pour la politique. J'adore ce jingle. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Mickaël, on commence avec vous. Aujourd'hui, on vient de le dire, le Premier ministre Édouard Philippe sera devant les députés pour la déclaration de politique générale. Discours qui fait suite au grand débat national. Alors, il n'y a pas eu de changement au gouvernement, comme pouvaient l'exiger les Gilets jaunes. Mais vous nous dites ce matin qu'il y a tout de même eu un remaniement.
Eh oui, Édouard Philippe reste à son poste, mais le Premier ministre remanie sa méthode. C'est la feuille de route précise d'ailleurs donnée par le Président de la République au Premier ministre. Dans ces termes, il faut que le discours soit dense et présente une vision politique et ne se contente pas d'égrener un catalogue de mesures. Et le défi n'est pas mince, hein, parce que d'abord, un discours de politique générale, eh bien c'est justement un catalogue de politique publique et que cet exercice est rarement réussi. Très peu d'ailleurs de discours ont marqué les premiers ministres qui n'ont pas échappé à la monotonie. Ensuite, Édouard Philippe, donc même de l'avis de ses proches, n'est pas vraiment connu pour son talent oratoire. Mais c'est lui qui va porter la dimension politique de cette nouvelle phase du quinquennat avec des textes très sensible sur les retraites et la PMA. Le principe du discours de politique générale, il faut le savoir, a été décidé au cœur de l'hiver, en plein grand débat. Et à cette époque, personne ne savait qui donc le prononcerait. Finalement, Édouard Philippe ne change pas de fonction. C'est sa mission de Premier ministre qui va changer. En restant à sa place, eh bien, il fait vivre un programme de gouvernement décidé par Emmanuel Macron à la sortie du grand débat. Il était directeur général du macronisme. Le voilà metteur en scène de l'acte 2 présidentiel.
Alors, il y a quand même un enjeu politique, hein, celui du vote de confiance.
Et oui, ce sera le premier baromètre du discours de Philippe, juste après le vote de confiance. Parce qu'on va regarder de très près comment la droite va voter. Qui s'abstient? Qui vote chez Agir? Qui vote chez UDI? Et comment? Et surtout, également chez La République En Marche. Parce que Édouard Philippe, venu de la droite, eh bien, est resté un Premier ministre sans étiquette. Il doit donc aussi réussir à déclencher la confiance chez des députés marcheurs avec lesquels il a des relations compliquées. C'est aussi le défi de ce discours pour lui. Il n'a pas porté le programme de la campagne présidentielle avec cet acte 2 du quinquennat. Eh bien, il doit séduire un parti majoritaire qu'il n'a pas rejoint.
Merci Mickaël Darmon pour toutes ces informations. L'économie, Axel de Tarlet, que faire face aux appels intempestifs? Plus de 9 Français sur 10 disent être dérangés par des appels incessants.
Voilà, c'est un sondage UFC Que Choisir qui dit ça. Au point, effectivement, je ne sais pas ce que vous faites vous, mais il y a de plus en plus de gens maintenant qui ne répondent plus au téléphone fixe quand il sonne chez eux. Notamment, vous savez, c'est une enquête aux États-Unis, 70% des ménages disent ne plus décrocher quand le numéro qui s'affiche est inconnu, c'est-à-dire qu'il n'est pas dûment répertorié dans leur répertoire. C'est vrai que ça vous dérange quand vous êtes à table, quand vous êtes en train de faire la sieste. Et alors, le plus inquiétant, c'est que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le téléphone portable qui s'y met lui aussi, met de plus en plus à sonner sans que vous ne sachiez qui est au bout du fil.
C'est infernal.
Voilà, alors c'est infernal. Donc il y a à la fois des démarches commerciales agressives pour la rénovation thermique, pour, je ne sais pas, changer vos fenêtres, ramoner votre cheminée, mais il y a de plus en plus aussi d'arnaques. Alors les arnaques, il y a deux types d'arnaques. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a deux grands types d'arnaques. Il y a d'abord le message qui vous invite à rappeler, exemple, bonjour monsieur, votre véhicule n'est plus assuré, vous risquez gros, donc veuillez rappeler, et en fait le numéro à rappeler est un numéro surtaxé. Et puis alors il y a l'autre arnaque très classique, c'est le téléphone qui ne sonne qu'une fois, donc un numéro s'affiche et donc par curiosité vous avez envie de rappeler et là boum, vous tombez sur un numéro surtaxé.
Et on ne peut rien faire Axel, le gouvernement je crois a proposé une sorte de liste rouge.
Oui, alors il avait
Bloctel,
voilà, il avait lancé ça en 2016, et bien écoutez ça ne marche pas tellement, ça se montre assez décevant, mais il faut dire que c'est très compliqué parce que ce sont des
démarches de s'inscrire.
Alors il faut faire la démarche de s'inscrire et puis de toute façon ceux qui téléphonent n'utilisent pas un fichier, ils téléphonent, ce sont des machines qui téléphonent en faisant des numéros au hasard. Ça s'appelle des robot calls, vous voyez, des robots qui téléphonent. Alors aux États-Unis d'ailleurs, il y a une proposition de loi visant à interdire ces machines à téléphoner. Mais bon, c'est compliqué. Alors il y a Apple qui va lancer dans ses prochaines versions une option qui permet de réorienter tous les appels qui ne figurent pas dans votre répertoire. Ils seront automatiquement réorientés vers votre boîte vocale. Et donc, si c'est un numéro qui téléphone et qui n'est pas dans votre répertoire, eh bien la personne devra laisser un message. Et en général, ces personnes-là ne laissent pas de message. Alors, c'est peut-être la solution.
C'est pas bête, en tout cas.
C'est pas bête, même si moi, vous voyez que je vous dise, j'ai une petite larme, parce que ça veut dire que c'est la fin des blagues au téléphone.
Ah oui.
Et les fameuses blagues. Et ici, on est à Europe 1. Et moi, pendant des années, j'ai ri de bon cœur avec les blagues de Jean-Yves Lafesse, où il y a aussi les excellentes blagues de l'ancien d'Europe 1 aussi, comme Baffy. Alors, pour le plaisir, vous n'échapperez pas à...
Le commissariat, bonjour.
Oui, passe-moi l'autre con.
Merci Axel de Tarlé pour cette...
Là, ce sera sur la messagerie vocale, c'est malheureusement.
Merci pour ce finish tout en poésie. Merci Axel. Allez, on termine ce tour de table avec vous, Anne Le Gall. Qu'est-ce que vous nous conseillez, Anne, de regarder ce soir à la télé ?
Ce soir, je vous invite à une balade en forêt grâce à un documentaire inédit diffusé sur France 3 à 21h. C'est un peu contre-intuitif, mais la forêt en France revit. Elle est actuellement aussi dense et riche qu'au Moyen-Âge. La faune sauvage y est aussi plus nombreuse qu'il y a 30 ans. Et en nous mettant dans les pas de quatre passionnés, quatre spécialistes de la forêt, ce documentaire nous emmène loin des sentiers balisés, au cœur de zones redevenues sauvages. On part sur les traces du loup dans les Cévennes avec un philosophe trappeur. Plus étonnant, on suit aussi la trace du lynx boréal dans le Jura grâce au photographe animalier Laurent Gélin. Ces animaux farouches et nocturnes ne se laissent pas montrer facilement.
Il y a très peu de choses sur le lynx. Donc c'est justement le côté mystérieux qui m'attire aussi. C'est le fait que ce ne soit pas un animal connu. Donc il y a tout un aspect mystérieux et à découvrir que moi je trouve assez fascinant.
Les images sont sublimes. Elles nous montrent des lynx, des loups, d'autres mammifères ou l'enchevêtrement végétal de mousses, de branches ou de racines. Un spectacle que le naturaliste Philippe Falbet ne se lasse pas d'observer et d'étudier dans les forêts des Pyrénées.
Moi, quand je suis ici, je décroche du mental. Intérieurement, je suis saisi. C'est expansion. Je peux même pas dire que c'est du bonheur ou de la joie. C'est une sensation de plénitude, mais comme je la ressens nulle part ailleurs, quoi.
Des Pyrénées aux Cévennes, du Jura à l'Ardèche, ces quatre experts s'accordent sur l'urgence qu'il y a à préserver cette nature authentique et primitive. Alors certains seront peut-être un peu gênés par l'utilisation récurrente de plans au ralenti ou par la musique qui donne un côté très mystique à ce documentaire signé Marguerite Dolon et Thierry Robert. Mais c'est franchement un bon moment d'évasion dont on sort vivifié, disons-le. France Terre Sauvage sur la forêt, c'est donc à voir à 21h ce soir sur France 3.
Bah pour une fois que la télévision occidentale. Merci Anne Le Gall. Allez, juste pour le plaisir.
Le commissariat, bonjour.
Oui, passe-moi l'autre con.
C'est quand même génial.
Merci.
Merci à Laurent Baffy. Merci à vous trois, les fantastiques, et à demain.
Il est 6h53, Julien Pierce.
Debout les copains touche à sa fin. Dans quelques instants, je laisse le micro à un homme extrêmement agaçant. Il sait tout faire, écrire, chanter, photographier. Il s'est même présenté une matinale et en plus, il le fait plutôt bien. Nikos Aliagas, bien entendu. À tout de suite sur Europe.
Il est 6h56, Julien Pierce.
Debout les copains s'achève pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à demain. Bonjour mon cher Nicolas.
C'est quand même classe de s'appeler Julien Pierce, je trouve.
Ouais, c'est classe,
gentil.
Aussi, ouais.
C'est gentil.
C'est vrai.
J'y suis pas pour grand-chose, je dois vous avouer. Merci papa, merci maman. Merci. Je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides, dis donc.
Non, j'ai toujours quelqu'un qui m'accompagne. Exceptionnellement, je lui ai demandé de sortir effectivement de l'ombre. C'est la Coupe du Monde.
Ah ouais, rien que
la
ça.
La Coupe du Monde de foot, mais c'est celle des femmes. Regarde,
elle est magnifique.
Elle est encore plus belle.
J'ai vu un monsieur l'amener avec des gants blancs. Ah oui. C'était impressionnant.
On n'a pas le droit de la toucher. Non, la règle, c'est de la regarder seulement.
Ah ouais.
Les belles choses, il faut les protéger. De nos mains rugueuses. Regardez le Graal, comme il est beau.
Oui,
bonjour
c'est
à tous.
C'est la vraie Coupe du Monde.
C'est la vraie Coupe du Monde ce matin dans le studio d'Europe 1. Anne prend des photos, Céline a déjà mis son
moi,
maillot.
Moi j'ai mis maillot.
Mais il n'a qu'une étoile.
Ah, il n'a qu'une étoile, mais on n'a pas trouvé celui avec les deux étoiles. On va pas reparler de la polémique, mais c'est vrai que c'était compliqué d'en trouver un.
Mais c'est peut-être prospectif, c'est-à-dire que...
C'est pour les bleus, c'est pour nos bleus à
les
nous.
Les bleus ES Exactement. N'ont pas encore d'étoiles, voilà. Mais peut-être qu'ici
Bravo.
3 semaines, elles en auront.
Belle analyse, Julien Pierce. Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour mes amis.
Comment ça va?
Ouf. Je suis venu vous dire que ça n'a pas changé.
Qu'est-ce qui se passe là?
Comme dit Verlaine, au vent mauvais.
Oh, ça va s'arranger.
Ça n'a pas changé.
Bon. Mais pourquoi?
Mais c'est comme ça.
Expliquez-moi, je veux savoir d'un point de vue météorologique.
Je vous donnerai les explications en privé parce D'accord. que je ne les ai pas.
C'est trop long.
Non, mais il n'y a pas un anticyclone
non,
qui s'installe.
Si, si. Oh, bon, il y a ce qu'on en appelle, mais attendez, j'en parlerai tout à l'heure.
D'accord.
Okay. Qu'on appelle une goutte froide.
Ah bah
et la goutte froide, elle est au-dessus de notre tête. Et elle tourne. La goutte froide, tiens, je veux dire tout de suite, c'est une dépression qui se forme sur un pays. Qui tourne comme une toupie. Donc, quand vous avez lancé la toupie, vous attendez qu'elle arrête de tourner.
Ouais.
Bon, et là, elle n'a pas cessé de tourner. Voilà.
J'ai compris. Pour qui sont ces gouttes froides qui
et
coulent sur nos têtes?
Bravo. Aujourd'hui, c'est pour la Bretagne, le Pays de la Loire, le Poitou-Charentes. Et puis cet après-midi, pour la région parisienne, pour le centre. Nous avons de la pluie aussi sur la Champagne-Ardenne, la Normandie, le Nord, la Picardie. En fait, les régions où ça ira pas trop mal sont l'Alsace, la Franche-Comté, le Dijonais et la région lyonnaise. Les régions du sud-ouest vont vers des éclaircies dans le courant d'après-midi. Et puis ailleurs, ben ça, c'est les régions que je n'ai pas citées, c'est une alternance d'averses, de giboulées et d'orages. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Température maximale entre 16 et 19, 19 à Paris, et entre 21 et 26. Alors 16, 19, c'est moitié nord, bien sûr. 20 et 26, c'est moitié
le sud.
Et ma foi, c'est pas trop... C'est comme hier, quoi. C'est comme hier.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Prochain point météo juste avant le journal de 7h30.
5h, 7h, Julien Pierce sur Europe 1.